Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Alors, pour avoir toutes les actualités de l'association, et elles sont nombreuses, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association en tapant Marie de Nazareth, le tout attaché, .com, et vous rendre ainsi dans l'onglet ad hoc. Vous y trouverez aussi de nombreuses propositions spirituelles auxquelles vous pouvez vous inscrire gratuitement. Alors, la dernière fois, nous avons eu la joie de parler de Notre-Dame de Guadeloupe et étions avec David Caron Olivares, que nous avons la joie d'avoir de nouveau cette semaine. Bonjour David.
Bonjour France.
Merci de revenir cette fois-ci nous parler de cette incroyable histoire qui s'est déroulée en 1531. L'association Marie de Nazareth, je voudrais le rappeler, est partenaire de Sage pour la diffusion du film Guadeloupe que vous pouvez proposer à la projection dans vos paroisses ou pour d'autres associations en vous organisant avec le cinéma de votre quartier, par exemple, pour en avoir la projection. Alors, n'hésitez pas à les contacter ou à nous contacter pour que nous vous mettions en lien. C'est très bon pour une paroisse ou une communauté de se retrouver ainsi. Très bon lien. Alors, écrivez à émission Radio Courtoisie, le tout attaché, @mariedenazareth, le tout attaché, .com. Alors aujourd'hui, nous prendrons donc davantage de temps pour parler de l'apparition de la Sainte Vierge et de ce magnifique miracle de cette image sur une tilma. D'après ce que j'ai compris, c'est un vêtement à mi-chemin entre une cape et un manteau. Alors donc, nous n'aurons pas Justina cette semaine, mais nous pensons bien à elle. Alors, merci David d'avoir la semaine dernière approfondi la situation historique du Mexique et de là-bas à cette époque. Cela nous permet de bien situer le cadre et de voir combien tout a été préparé par la Vierge Marie. Alors j'en profite pour vous dire, chers auditeurs, que vous pouvez trouver la première partie de cette émission dont je vous parle en podcast, soit sur le site de Radio Courtoisie, vous allez dans l'onglet de l'émission Magnificat, soit sur le site de l'association Marie de Nazareth, où vous trouverez aussi toutes les autres émissions depuis le début, soit plus d'une soixantaine à présent. Alors, David, j'ai une petite question un petit peu personnelle avant de commencer, si vous le permettez. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le sujet de Guadeloupe et être la référence sur ces apparitions?
Lorsque nous sommes arrivés à Lyon, en France, en 2004,
oui.
Nous étions à Mexico. Et nous sommes venus avec une image de Notre-Dame de Guadeloupe bénie par un prêtre dans la basilique de Guadeloupe. Et nous lui avions confié que nous venions en France avec elle. Oui. Et puis, en arrivant en France, je veux faire la rencontre d'un couple dont lui, il avait étudié la langue nahuatl, la langue aztèque, et qui avait approfondi les messages de Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, c'est la providence qui nous a mis ensemble. C'est Jean-Pierre Roussel, avec qui j'ai coécrit les livres, qui est décédé en 2019, mais avec qui nous avons approfondi ces parcours. Nous avons parcouru tout l'événement guadeloupéen dans la partie historique, scientifique, religieuse, spirituelle, théologique, etc. Nous avons commencé à faire des conférences, à donner des conférences, et puis après, nous avons été envoyés une mission par un prêtre qui est venu nous voir, qui nous a dit « Vous devez écrire un livre ». Parce que ce que vous dites sur Notre-Dame de Guadeloupe est formidable, merveilleux. Donc, nous avons écrit un livre qui est paru en 2014, Notre-Dame de Guadeloupe, l'image face à l'histoire et à la science. Mais voilà, c'est un commencement, c'est une voie qui a commencé en 2004, je dirais, lorsque nous sommes arrivés à Lyon et France, et qui s'est poursuivie de nos jours.
Ah, très bien. Alors, parlons à présent de Juan Diego, dont nous connaissons l'échange avec la Vierge Marie grâce au... Alors, pardon encore pour mon accent, grâce au Nikan Mopoua.
Oh. Oui.
Voilà, oui. Qui est en fait l'écrit sous forme de poème des apparitions.
Oui, exact. Le Nikan Mopoua et les récits des apparitions,
voilà.
Qui sont mis par écrit par un autre Indien qui s'appelait Antonio Valeriano vers 1546-1548. Et c'est dans ces récits que nous découvrons la merveille des paroles qui ont été échangées entre Notre-Dame et Juan Diego. Juan Diego.
Oui, qui était-il?
Donc son nom originel, son nom aztèque ou toltèque plutôt, était Cuauhtlatoatzin, l'aigle qui parle. Et puis déjà dans son nom, il porte sa destinée, parce que l'aigle est l'oiseau royal pour les Aztèques, c'est lui qui était chargé de communiquer avec Dieu. Donc, dans son nom, il porte cette destinée de pouvoir communiquer avec Dieu. On va le voir ainsi. Et puis, il était des cultures toltèques. Donc, ça veut dire que les toltèques, ils avaient déjà acquis dans leur culture la notion de l'existence d'un Dieu unique. Et Juan Diego, il attendait ce Dieu unique dans son cœur. Puis, il fut parmi les premiers baptisés en 1524. Donc, ça veut dire que son cœur était prêt pour être le témoin des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe, qu'il va rencontrer, on le verra plus tard, quatre fois. Puis, Juan Diego, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Maria Lucia, Maria Lucia, baptisée donc en 1524 également, qui va décéder, mais c'est elle qui va lui offrir un cadeau, c'est Tilma, en 1529, qui est un manteau qu'il portait, sur lequel on le verra plus tard, l'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadalupe va s'imprimer. Puis, après les apparitions, Juan Diego, il va rester comme gardien de l'image dans cette première église primitive, le restant de sa vie jusqu'à sa mort, pendant 17 ans. Il va être le témoin privilégié des apparitions. Et c'est grâce à son témoignage, en grande partie à son témoignage, que les Indiens vont venir par milliers pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir voir les merveilles qui se trouvent sur l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, Juan Diego, il va être canonisé au XXIe siècle, donc le 31 juillet 2002 par Jean-Paul II. Donc, c'est très intéressant de voir qu'un Indien qui est né au XVe, qui décède au XVIe siècle, qui est canonisé pour l'Église au XXIe siècle, comme un message très important pour la civilisation actuelle.
Alors, en 1990, il y a eu la reconnaissance d'un miracle. Donc, même, je dirais qu'il y en a forcément eu auparavant, mais c'est celui de 1990 que nous avons retenu, enfin que l'Église a retenu.
Oui, c'est un miracle extraordinaire. Un jeune homme dont son nom est, parce qu'il est encore en vie, José Barragán Silva, qui est fatigué de la vie. Il habite avec sa maman dans un appartement au troisième étage. Il décide de se défenestrer. Et donc, il va tomber avec la tête, la première, sur le trottoir. Et puis, sa mère va descendre le voir. Il n'est pas mort, il est encore en vie. Et on va l'amener providentiellement dans l'hôpital Durango, qui se trouvait, elle était le plus proche de son lieu d'habitation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les docteurs responsables de l'hôpital Durango n'étaient ni plus ni moins que Homero Hernández Illescas, qui était médecin et astronome. Et c'était l'astronome qui avait étudié les étoiles, le premier, qui avait étudié les étoiles sur les manteaux de Notre-Dame de Guadalupe, qui va dire à sa mère, sachant que Jean-Paul II est attendu bientôt pour la messe de béatification de Juan Diego, va dire à sa maman, priez Juan Diego, et la maman va s'acquitter, donc il va prier très fortement Juan Diego avec une grande dévotion. Et donc, figurez-vous que les 6 mai 1990, lorsque Saint Jean-Paul II célèbre la messe en honneur de la béatification de l'Indien, que José Barragán Silva s'élève de son lit sans aucune séquelle.
Ah oui, c'est incroyable.
Ouais. Donc, ça veut dire que le miracle qui va être retenu pour la canonisation de Juan Diego va être réalisé pendant la messe de béatification de l'Indien.
C'est magnifique. Encore un grand signe. Alors, oui. Parlez-nous de ces apparitions.
D'accord. Donc, Juan Diego s'est rendu de sa maison à Tlatelolco, Mexico, 2 fois par semaine, dont un samedi, hein, nous dit le récit. Et le samedi 9 décembre, lorsqu'il passe par le Tepeyac, qui est une petite colline qui se trouvait à côté du lac de Texcoco, le lac n'existe plus de nos jours, donc il va entendre un chant des oiseaux merveilleux qui va arrêter sa marche, et puis il va entendre une voix merveilleuse qui va l'appeler du sommet de la colline par son nom de baptême, Juan Diego Tzin. Donc il va s'approcher, et c'est là où il va découvrir une dame d'une grande beauté, avec le soleil qui l'enveloppe, qui éclaire l'ensemble de la colline, qui va se présenter à lui d'une manière étonnante. Elle va lui dire, je suis Santa Maria, la mère de Dieu, la tienne, et celle de toutes les hommes de cette terre, qui m'aiment, me parlent, me cherchent. il s'est confié à moi. Donc, il se présente à lui comme mère de l'humanité. Il va lui dire par la suite, va à Mexico, donc demander à l'évêque de me construire une petite maison de Dieu ici pour pouvoir montrer mon fils, car Notre-Dame de Guadalupe est enceinte de Jésus-Christ. Et puis, Juan Diego va s'acquitter de la tâche, va aller voir l'évêque. L'évêque, il va être mis à l'épreuve, les voyants, parce que l'évêque ne va pas les croire. Juan Diego reviendra une douzième fois sur la colline de Tepeyac, ce même 9 décembre, pour demander à la Vierge de Guadalupe que la charge qu'elle lui a donnée est trop lourde pour lui, qu'elle ne peut pas la porter. Donc, il est apaisant d'ici, il faudrait plutôt que Marie trouve quelqu'un d'autre. Mais la Vierge Marie va avoir confiance en lui, va lui dire, demain, tu iras voir l'évêque, j'ai mis ma confiance en toi, et tu lui diras que je voudrais qu'il me bâtisse une église ici. Donc, Juan Diego rentre chez lui, va voir l'évêque une deuxième fois, le 10 décembre. L'évêque va lui demander un signe. Quel genre de signe voudrais-tu, Monseigneur ? Lui pose la question Juan Diego. L'évêque ne répond pas. Juan Diego revient voir Marie, 10 décembre, troisième apparition, pour lui demander que l'évêque a besoin d'un signe. Pas de problème, lui dit-elle. Reviens me voir demain, je te donnerai les signes. Le 11 décembre, Juan Diego ne vient pas au rendez-vous avec Marie parce qu'il reste au chevet de son oncle. Son oncle est malade, il est au point de la mort. Et le soir du lundi 11, Juan Diego va quitter sa maison pour aller quérir un prêtre pour confesser son oncle et le préparer à mourir. Et c'est dans la nuit du 12 décembre, le matin, très tôt le matin du 12 décembre, que la Vierge de Guadalupe va venir à son rencontre pour lui dire « Où vas-tu, mon fils? Où te diriges-tu » Et Juan Diego lui dira « Un oncle à moi se meurt ». Et c'est là où la Vierge de Guadalupe va lui dire « Mais ne crains pas cette maladie-là, ni aucune autre maladie. Sois sans angoisse. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection? Ne suis-je pas la source de ton joie de vivre? As-tu besoin de quelque chose d'autre ?» Avons-nous besoin de quelque chose d'autre pour nous poser la question? Donc, et à ce moment-là, elle va guérir l'oncle, il va accomplir son premier miracle, et puis dira à Juan Diego de monter sur les sommets de la colline pour aller guérir des fleurs. Nous savons qu'au mois de décembre, en hiver, à Mexico, dans cet endroit où il n'y avait que des rochers, des mesquites, des nopales, c'était très difficile de trouver des fleurs. Mais Juan Diego monte, il va trouver des fleurs qui ne sont pas d'ici, car la Vierge fera pousser des roses de Castille, des fleurs qui n'existaient pas au Mexique auparavant, mais que l'évêque reconnaîtra.
Ah oui.
Et puis, elle lui dira, voici les fleurs, c'est le signe pour l'évêque, tu les lui montreras, son cœur changera et il croira. Il va rencontrer l'évêque pour une troisième fois, pour lui donner les signes, et au moment où Juan Diego ouvre sa tilma, donc les manteaux dans lesquels il avait rangé les fleurs, c'est à ce moment-là que l'image de Notre-Dame de Guadalupe s'imprime miraculeusement sur les manteaux qui portaient l'Indien. Et ce 12 décembre, elle va accomplir trois miracles, la guérison de l'oncle, les fleurs sur le sommet de la colline, et puis cette image merveilleuse qui s'est imprimée miraculeusement pour l'éternité dans les manteaux qui portaient l'Indien.
La Vierge est apparue à l'oncle aussi, n'est-ce pas?
Exact. Donc, il y a eu une cinquième apparition. Donc, la Vierge est apparue à l'oncle pour le guérir au même moment que il était avec Juan Diego le 12 décembre, et c'est à l'oncle qu'elle va lui dire « Je suis Santa Maria de Guadalupe ». C'est à l'oncle qu'il va donner son nom, parce qu'elle voulait s'appeler ainsi, de Guadalupe. Et elle va demander à l'oncle également d'aller voir l'évêque pour tout lui raconter, afin que l'évêque également, il croit par rapport à cette cinquième apparition.
Pourquoi de Guadalupe?
D'accord, donc Guadalupe est un nom arabe qui existait déjà en Espagne.
Oui.
Et souvenons-nous que l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe est une parfaite enculturation pour les mondes indiens et les mondes espagnols de l'époque. Et Guadalupe était un sanctuaire marial connu des Espagnols. Et c'est par ces signes, il y a des signes dans l'apparition mariale de Notre-Dame de Guadalupe au XVIe siècle qui sont pour les Espagnols et pas pour les Indiens, comme les médaillons qu'elle porte dans les coupes, comme par exemple l'image de l'Apocalypse, et comme par exemple les noms de Guadalupe. Guadalupe est un nom arabe qui veut dire « fleuve de lumière ». Donc, elle est le fleuve qui nous apporte la lumière de Jésus-Christ.
C'est très intéressant. Alors, nous allons parler, après la pause musicale, de ce qu'il y a de représenté sur la tilma. En attendant, nous allons écouter une hymne que j'ai trouvée, chantée par Isabelle O'Connor, qui s'appelle « L'hymne à Notre-Dame des Guadalupe ».
Nous sommes les enfants de la vie. Sans hésitation, sous votre protection, la joie au cœur, nous allons au front. Ô Maria, Mère de miséricorde, tendre Vierge, Reine de Guadeloupe, en montagne de la neige et des roses, votre amour touche le monde entier. Là, sur la toile d'une tilma, le ciel a peint votre image sainte. À tout jamais, souvenir éternel. Ô Maria, Mère de miséricorde, Vierge, Reine de Guadeloupe, en montagne de la neige et des roses, votre amour touche le monde entier. Fin aux sacrifices humains. Juan Diego en est témoin. Un temple ancien devient basilique. Ô Maria, Mère de miséricorde, tendre Vierge, Reine de Guadeloupe, de la neige et des roses, votre amour touche le monde entier.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
David Caron-Olivares est notre invité aujourd'hui et je le remercie de nouveau. Je rappelle que vous avez écrit Notre-Dame des Guadeloupe, l'image face à l'histoire et à la science. Vous avez même coécrit. Alors, nous étions en train de parler de ces apparitions. Donc, maintenant, parlons de ce qu'on appelle, nous, la tilma, mais qui n'est pas le bon mot, parce qu'en fait, on parle de l'image qui est sur la tilma.
Donc, ce que nous pouvons dire sur cette image,
oui.
Lorsque nous la regardons, nous voyons que une jeune femme se tient avec les mains jointes, donc les genoux légèrement fléchis, et donc en position de prière, mais aussi en position de respect, comme s'il nous montrait quelqu'un qui est plus grand qu'elle. Et en fait, elle nous annonce la venue de cet unique vrai Dieu. Les Aztèques attendaient dans leur cœur, qui pour nous les chrétiens est Jésus-Christ, et qu'ils reconnaîtront comme Jésus-Christ plus tard quand ils seront convertis. Puis, nous voyons également qu'elle porte un ruban noir à la ceinture, qui indiquait qu'elle était enceinte. Et puis, plus bas de ces rubans noirs, il y a une petite fleur à quatre pétales, qui est une fleur très importante, la fleur de la divinité solaire, la fleur qui s'appelle quatre mouvements, Nahuyolin et Nahuatl, et qui était la fleur qui représentait les moments les plus importants dans lesquels le soleil était vénéré. Donc, mais les Aztèques, ils vont comprendre qu'elle est la mère de l'unique et vrai Dieu. Puis, on verra qu'elle est habillée d'un manteau bleu turquoise. La couleur bleu turquoise ne pouvait pas être portée que par les princesses. Et puis, nous voyons également qu'elle descend du ciel entourée de brumes et nuages. Donc, ils vont voir que c'est une jeune femme qui vient du ciel, qui est une princesse, qui est enceinte, qui est vierge, et puis qui leur annonce la venue de l'unique et vrai Dieu. Et puis, il y a d'autres fleurs très intéressantes qui prennent leurs racines dans les manteaux, qui nous présente effectivement une nouvelle civilisation dont Bellevue était fondée, et cette nouvelle civilisation enracinée dans la vérité divine. Quand on met tous les messages de bout en bout, les Indiens ont lu « Je suis Santa Maria, la mère de l'unique et vrai Dieu, et je voudrais bâtir une nouvelle civilisation enracinée dans la vérité divine. » Voilà les messages. Puis, bien évidemment, les Indiens qui catéchisaient, ils ont compris qu'ils pouvaient venir se recueillir dans cette petite église qui avait été construite pour pouvoir offrir leur cœur sans les arracher et pouvoir retrouver paix et sérénité. Et nous allons être face à la conversion en masse la plus spectaculaire de toute l'histoire de la chrétienté, car en 10 ans, on décomptera 9 millions de conversions, pas seulement des Indiens, mais aussi des Espagnols qui étaient là-bas et qui ont embrassé la foi catholique.
Alors, cette image, vous dites que c'est un codex. Pourquoi ?
En fait, c'est un codex parce que les Nahuatl, la langue qui parlaient les Indiens, ne s'écrivait pas.
Oui.
C'était une langue dans laquelle la connaissance, les savoirs, les concepts étaient transmis par des pictogrammes. Et puis, donc, la Vierge de Guadalupe a des pictogrammes sur son manteau. Ces fleurs dont je vous ai parlé, ces oui. rubans noirs, etc., etc., font partie de ces pictogrammes qui, quand on les met ensemble, ils nous délivrent un message. Et c'est pour ça que c'est un codex, parce qu'il a fallu le décrypter.
Oui.
L'histoire, l'archéologie au XXe siècle se sont mis au travail pour pouvoir décrypter ces codex guadeloupéens que les Indiens ont lus au XVIe siècle, quand il est apparu et quand il était exposé dans cette petite église où il venait la vénérer.
Alors, il y a énormément de choses à découvrir et chacun le découvrira dans votre livre parce qu'il faudrait je ne sais combien d'heures d'émission pour pouvoir en parler. Mais il y a quand même des choses phénoménales comme dans le regard de la Vierge Marie. On y retrouve, en regardant de très très près, grâce à des ophtalmologues, n'est-ce pas, des visages. On lira dans votre livre d'où ça vient. Mais j'ai quand même j'ai deux petites questions encore avant de terminer. Vous évoquez avec cette image l'amour familial.
Oui.
La famille, donc, c'est important ça de nos jours. On sent que c'est le combat de... Oui, dites-nous.
Notre-Dame de Guadalupe, comme je l'ai dit, elle est enceinte et elle va guérir l'oncle. Elle se présente comme patronne de la vie.
Oui.
Et elle protège la vie de la conception à son terme naturel. Et nous savons que la vie, elle est transmise au sein du noyau familial, où, par leur amour, un père et une mère vont avoir un enfant.
Oui.
Et quand on regarde ces images dont vous parlez, dans les yeux de Notre-Dame de Guadalupe, nous allons trouver une famille qui occupe les lieux de la pupille,
oui.
qui est l'endroit le plus important de l'œil, dans laquelle on va retrouver les reflets d'un père, une mère, 3 enfants, il y a un couple de grands-parents. Donc, elle envoie un message très important aujourd'hui, de nos jours, lorsque la famille est si attaquée,
oui.
avec cet amour familial qui est unique, je dirais, dans les apparitions mariales, où Notre-Dame de Guadalupe nous montre effectivement que cette société, il faut qu'elle prenne soin de cet noyau sociétal qui est la famille. Et donc, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire par rapport à ça.
Alors, la dernière question que j'avais, c'était ces fleurs. Est-ce qu'elles ont été miraculeusement sauvegardées ? Est-ce qu'elles sont restées fraîches ? Ou alors, nous ne savons rien ?
En fait, les miracles n'étaient pas... En fait, les miracles, les fleurs, c'est le fait qu'elle a fait pousser des fleurs
oui,
de Castille
bien sûr.
Dans un endroit où c'était impossible.
Mmh.
Et puis, des fleurs qui n'étaient pas connues par les Mexicains, mais que l'évêque reconnaîtra. Mais les fleurs, je dirais que c'est les moyens que la Vierge a utilisés pour que Juan Diego puisse
être, prouver.
Voilà, puisse aller à l'évêché une 3e fois, et que les rondes les laissent entrer, etc. Mais c'est à travers les fleurs que l'image va après s'imprimer.
Oui.
Donc voilà, les fleurs, l'image, il faut les prendre dans un ensemble. Les miracles et l'impression miraculeuse de l'image sur la clima de Juan Diego.
Oui, non, mais je me disais qu'il les avait peut-être mises dans un reliquaire et que, ou les avait fait sécher. Voilà.
Non, malheureusement, oui. Malheureusement, non, parce que, en fait, je pense qu'ils ont été tellement éblouis
oui.
par cette image miraculeuse qui s'est imprimée. Qu'après, peut-être, les fleurs ont été oubliées.
Oui. Eh bien, merci beaucoup, David, pour toutes ces explications. Ce fut vraiment une grande joie d'en découvrir encore davantage. Et vraiment, j'invite tout le monde à lire votre livre. Voilà, c'est quand même incroyable de voir ce qui s'est passé là-bas. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À dimanche prochain, à 17h30 sur Radio Courtoisie. Merci beaucoup, David. À bientôt.
Merci beaucoup, France.